La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée cette semaine au festival aux quatre coins du mot où l'on célèbre l'ailleurs et l'autrement sous toutes les formes inspirées de l'oralité. Pour sa première édition, le nouveau rendez-vous de la Charité sur Loire rend hommage à l'écrivain et dramaturge Aziz Chouaki, disparu brutalement au mois d'avril dernier. Au son de son texte fondateur Les Oranges, je vous propose de revisiter l'histoire de l'Algérie racontée par un auteur contraint à l'exil, dont l'imaginaire puissant interroge la liberté de choix face aux événements.
Pouvoir se regarder en face, ça, personne ne nous l'a appris. Il n'y a pas eu d'école de démocratie dans ce sens, parce que la démocratie, elle commence d'abord par le respect de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. On a un mal fou, par exemple, à dire « je ». On est tellement prisonnier du « nous » et du « on », on nous a tellement fait sentir que c'était contre-révolutionnaire, d'une part, de dire « je », et d'autre part que c'était blasphématoire de dire « je », parce qu'on était prisonnier de deux vecteurs. La langue arabe qui est le vecteur du Coran. Et dans le Coran, il est interdit de dire « je ». Il n'y a que la masse qui compte. Et paradoxalement, dans le marxisme, c'est exactement la même chose. Or, c'est deux choses qui ne peuvent pas se piffer par nature. Mm-hmm. Puisque l'une est athée, l'autre est croyante, religieuse. Nous, on a été victimes de ces deux vecteurs. Tout le travail, il réside là-dedans. À permettre à l'autre d'être subjectif.
La voix d'Aziz Chouaki dans La Marche du Monde, entre les oreilles de nos invités, le metteur en scène Laurent Vacher. Bonjour Laurent.
Bonjour.
J'ai presque envie de vous présenter comme le metteur en scène historique des Oranges, un texte créé à la fin des années 90 et qui a tout de suite remporté un immense succès public, critique. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de vos premières impressions à la lecture de ce long récit de l'Algérie, version Chouaki?
Ah ben oui, c'était à l'occasion d'un comité de lecture pour le festival La Mousson d'été. C'était le tout début du festival, hein, le festival avait 2 ans.
On recevait le festival à l'époque, de La Mousson d'été.
Oui, c'est ça, un festival de La Mousson d'été. Et à l'époque, on recevait peu de textes des auteurs contemporains et on cherchait déjà des auteurs aussi qui venaient des quatre coins du monde. Et on a reçu un texte qui nous est arrivé, je crois, de Nanterre Amandier, qui était photocopié sur du papier orange. Il y avait marqué « Les Oranges ». Et forcément, ils faisaient tâche dans le paquet de feuilles blanches imprimées. Et on a lu le texte, j'ai lu le texte. Et ça a été une rencontre toute immédiate avec cette écriture, comme ce qu'on pourrait appeler un coup de foudre, quoi, une chose comme ça. Ça m'a énormément touché sur le style même de l'écriture, sur la façon de construire les phrases, de mettre en rupture, de déconstruire la phrase, de faire passer l'essence, de passer de... des choses très très vivantes, très imagées, très colorées, très rapides, et tout d'un coup il y a des choses beaucoup plus spleen, beaucoup plus lentes. Il y avait une musicalité qui me correspondait énormément, c'est-à-dire que je connais absolument pas l'Algérie, mais tout d'un coup j'avais l'impression que ça me parlait direct à moi, quoi, que c'était directement à moi qu'on écrivait, quoi, et que jamais je m'étais dans ma petite vie posé les questions sur l'Algérie, les rapports entre l'Algérie et la France, jamais j'avais réfléchi là-dessus.
Et là, d'un seul coup,
je prenais tout ça, quoi. Avec un texte qui était, pour moi, avant même que ça me raconte l'histoire d'Algérie, qui était un texte de chair qui me rentrait, qui m'imprégnait intégralement en moi, quoi.
À vos côtés, Laurent Vacher, j'accueille Yasmine Chouaki, productrice de l'émission En Sol Majeur sur RFI. Bonjour Yasmine.
Bonjour Valérie.
Et puis merci du fond du cœur, on est copines de radio depuis 30 ans.
Amies, oui.
Amies. Et merci surtout d'avoir accepté de témoigner dans La Marche du Monde de votre parcours de vie avec Aziz, de l'Algérie jusqu'à la France. En ce qui concerne ce texte, Les Oranges, Laurent Vacher disait spontanément « Moi, je m'étais jamais posé de questions particulières sur cette histoire partagée avec l'Algérie de la colonisation. Est-ce que vous, Yasmine, née en France, donc qui mettait le cap sur Alger, peut-être en quête de votre sol majeur, je ne sais pas, lorsque quelques années plus tard, vous êtes obligé de partir dardard avec Aziz pour venir en France et que peu à peu, il va maturer ce texte et le sortir. Comment ça vous parle, ces oranges?
C'est marrant parce qu'en même temps, déjà, c'est associé à quelque chose d'absolument intime, au fait que j'attends notre premier enfant. Je pense qu'il était enceinte. De cette histoire, Aziz, c'est-à-dire que il a lu énormément James Joyce, je reviens à Joyce, parce que Joyce lui-même avait un lien comme ça à son Irlande, à l'exil, à assumer comme ça une histoire avec un grand H à travers une transfiguration par l'écriture, par une mythologie, mais complètement revisitée par Joyce. Et ça, c'était son maître à penser, Joyce. Donc, moi, j'ai découvert l'Algérie à travers Jean de Dublin et Ulysse de James Joyce. On se baladait dans la Casbah, on se baladait du côté du port, on se baladait à Belfort, c'était le coin où le quartier d'Aziz, dans la banlieue d'Alger, avec dans les yeux ce que Joyce disait de l'exil irlandais. Donc je pense qu'il s'est promené comme ça dans les arcanes d'une certaine littérature autre, c'est-à-dire il n'était pas, c'est-à-dire c'est vrai, on parle d'une fresque algérienne quand on parle des oranges, c'est vrai que ça se passe du point de vue d'un balcon algérois, c'est le balcon d'Aziz d'ailleurs, c'est le vrai balcon de l'immeuble où on habitait, où j'ai habité avec lui, mais en même temps je sentais qu'il avait un phare, c'est-à-dire il avait un point de vue qui dépassait largement l'Algérie, et c'est sans doute pour ça que Laurent Vacher, qui a mis en scène, a été percuté par ce texte, alors que dans ta biographie, Laurent, on se dit tu hein, dans la vie,
oui, tout à fait.
Il n'y avait que la France jusqu'à ce texte.
Complètement.
Et pour cette émission spéciale enregistrée au Festival de la Charité sur Loire, nous recevons deux maîtres de liberté en direct d'Alger, justement. C'est le titre de votre spectacle, Reda Sediki. Bonjour Reda.
Bonjour.
Alors vous nous arrivez tout frais, tout chaud d'Algérie, où vous vivez en direct les manifestations pour la démocratie. Qu'est-ce que vous observez dans les rues d'Alger?
À chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds tout le temps en disant que j'ai l'impression qu'il y a mon fantasme qui est en train de se réaliser.
Waouh.
Parce que je dirais peut-être le mien, mais bon, peut-être que je l'ai hérité aussi de mes parents, de la génération d'avant, parce que... En fait, ce qui est drôle, c'est que quand je les entends, c'est que je suis nostalgique d'une période que je n'ai même pas vécue.
Oui.
Et là, le fait de voir les gens sortir, surtout que les gens se rendent compte qu'ils sont différents et qu'ils vivent ensemble, et d'ailleurs, comme on entendait très bien au début... où le jeu recommence à apparaître et le nous commence à disparaître petit à petit. Et il y a plusieurs jeux qui se croisent. Moi, le fait de voir mon père manifester avec des jeunes voyous des stades et chanter avec eux, je trouve ça juste exceptionnel. Et c'est un peu pour ça que... ça m'est déjà arrivé d'aller à Alger juste pour un week-end, juste pour manifester. Et je vais pas vous mentir que à chaque fois que j'y vais, je me dis peut-être que je vais pas revenir.
Cette histoire partagée entre la France et l'Algérie, c'est un amour passionnel. Hein. Je t'aime, moi non plus. C'est 130 années de colonisation convoquées dans ce texte écrit par Aziz Chouaki. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes déjà dans votre vie en France avec ce premier fils, Johar, qui est en train d'arriver. Vous avez dû vous exiler à cause des menaces de mort qui pesaient sur Aziz et sur beaucoup d'autres artistes. Vous l'avez appris comment? Enfin, c'était quoi l'idée pour les islamistes? Ils faisaient carrément des listes? C'était être blacklisté? C'était quoi?
Oui, alors ce qui se passe, c'est que on est en 88, donc il y a eu les émeutes. On est dans les rues d'ailleurs, on a vécu ces émeutes physiquement. C'était de l'impensable, enfin, que l'Algérie s'autorise ça, c'était de l'impensable à ce moment-là. L'ombre de Boumediene n'était pas loin, hein. Enfin, le spectre n'était pas complètement froid, on va dire. Et Aziz écrivait chaque semaine dans un nouvel hebdo, je ne sais pas s'il existe encore, dans un journal qui s'appelait Le Nouvel Hebdo, et il écrivait en s'inspirant chaque semaine d'un fait d'actualité. Donc on était en pleine émergence des premiers et derniers débats, en tout cas, le fils arrivait, la figure d'Abbassi Madani, d'Ali Belhadj, etc., de Saïd Saadi.
Le fils front islamique
du Saïd. Oui, pardon. Et donc, comme toujours, Aziz savait planter le décor tout en se promenant dans une narration avec souvent, je sais pas, des ingrédients surréalistes, etc., mais que les lecteurs prenaient pour argent comptant. C'est-à-dire, le journal avait pris la peine de marquer fiction.
C'était nécessaire.
C'était nécessaire. Et en même temps, inutile, parce que pour les gens, c'était, il était du fils, ou il était de, contre le régime, ou il est, en tout cas, il n'était pas là où il fallait. Et un jour, on lui a fait savoir, quelqu'un de la sécurité militaire, parce que de toute façon, c'est des voisins, hein, tout le monde s'épie, lui a fait savoir qu'il avait un dossier au RG, et que moi-même, qui travaillais à la chaîne 3,
la chaîne francophone
à Alger, j'avais aussi un dossier au RG. Et le Front du islamique du salut prend les municipales en 91
décembre.
Vous voyez, j'ai même plus les dates maintenant. Aziz est visionnaire. C'est vraiment d'ailleurs un trait chez lui qui ne l'a absolument pas quitté. Que ce soit quand on vivait en Algérie ou qu'on vive en France. Il a vu les émeutes des banlieues en 2005 arriver avant tout le monde. En 91, le fils est aux portes du pouvoir et il me dit « c'est fini pour nous ». Et donc lui était effectivement sur les listes, on disait, son nom était accroché dans les listes, dans les mosquées d'Alger.
Dans les mosquées. Aziz Chouaki, un musicien devenu écrivain, un artiste avant-gardiste, inventeur d'une écriture inspirée par l'oralité. Et dans son texte de théâtre, Les Oranges, il commence par balancer tout son amour à Alger la Blanche dès l'ouverture, ce que vous allez nous prouver tout de suite. Laurent Vacher, en reprenant dans votre voix le début de ce texte qui retrace l'histoire de l'Algérie de 1830 à nos jours, à la mode Aziz Chouaki.
De loin, ça fait comme un ruban blanc, cerné de bleu en bas, avec des touffes de vert en haut, et puis c'est poivré, menthe fraîche et jasmin. C'est ça, Alger. Brune lascive aux yeux olives et talant sa blanche langueur au lécher du soleil. Et moi, j'aime ça, oui. Petit matin au balcon, prendre un bol de soleil direct. Oh, le petit Crimo. Oh, qu'est-ce qu'il joue bien. Regarde qu'il te dribble ça et hop, et toc, la boîte de conserve entre les jambes. Du coup, yeah, petit pont, pauvre Gaulle. Ah, c'est Hamdam, le fils de Moussa, le boucher, 15 ans déjà. 80 kilos. C'est quoi ça? C'est quoi cette odeur, oui, qui soudain gifle heureuse mes narines? C'est la mer que je vois en bas du ciel, entre le café du Chiab et le kiosque à journaux. La mer, bien sûr. De mon balcon, la vue est imprenable. Les bras de l'abbé, au loin, les ports de Fort de l'eau, la Pérouge en barre, dentelle de nom, au museau poudré, aux perruques bouclées, poussière d'empire quand la langue pend, l'espace. Oh oui, on a essayé d'arabiser Fort de l'eau, c'est devenu bordel qui fin, de la Pérouge, t'amènes tes foustes. Pas facile, tout ce temps, deux langues dans l'ombre, clic, clac, 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 clic, 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 clac, 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 face à face, qui clic, croise le fer dans la croissante nuit. C'est fou une langue, hein. Tu prends un mot, tu le jettes dans les escaliers, il roule tout seul, comme un œuf, le mot, l'œuf quotidien, qui en roule boule dans ses mains en descendant l'escalier quotidien, roule le mot l'œuf. Bonjour, Madame Brahimi. Il sort dehors comme un grand l'œuf, le mot. Il en rencontre d'autres, plein, d'autres. Des œufs, des mots, il les épouse, sa tisse, des donjons, des princesses aux doigts de rosée, partout.
Merci beaucoup, Laurent Vacher. Yasmine, je vous donne la parole tout de suite. Ce balcon, vous l'avez très bien connu. Ce balcon,
oui, on a habité
au regard de la rue.
On a habité sur ce balcon, vu le monde passer. Aziz a eu une partie de son enfance et de son adolescence sur ce balcon, et pas loin de ce Shihab qui était juste au coin de la rue. Le Shihab, c'était le café du quartier de Belfort, c'était son QG, et c'était aussi une sorte de baromètre mental du pays. Il le racontait très bien. On a passé des soirées à avoir des fous rires sur le drame de l'Algérie, hein, parce que Aziz riait énormément dans ses textes, mais aussi dans la vie. C'est un très, très grand raconteur d'histoire. Et le Shihab, il avait deux images en tête. Sous la France, les garçons de café. Je dis ça pour Reda, je te regarde, je te tutoie comme mon fils, hein, parce que tu as sans doute à peu près son âge. Les garçons de café, à l'époque, ils avaient des gants blancs pour servir. Les Français sont partis et 10 ou 15 ans après, le café se réduisait à un immense cendrier rempli.
Et au tout début des Oranges, on a entendu la façon dont Aziz Chouaki balançait son amour pour la sensualité d'Alger. Et c'est sur cette question que moi et lui, nous avions enregistré une émission ensemble. C'était en 2000 sur RFI.
Mon amour, d'un point de vue pas du tout platonique, parce que les relais dont je me sers pour exprimer cet amour, c'est les relais des sens. Si vous remarquez, dans ce court extrait, ça interpelle les cinq sens en pratiquement quatre lignes ou cinq lignes. Je mets en place une espèce comme ça d'univers sensoriel immédiat pour montrer tout de suite en fait la couleur ou l'angle duquel je regarde ou je me positionne. On n'est plus du côté du sens intellectuel, mais plutôt du sens de la vie simple de tous les jours.
Ces odeurs, ces parfums, j'imagine qu'ils vous manquent. Est-ce que vous arrivez à les retrouver là où vous vivez en France?
Non, évidemment. Peut-être, quelquefois, quand je vais en Provence ou quoi, évidemment, il y a des odeurs comme ça qui m'interpellent tout de suite. Mais sinon, je me crée, comme on dit, on parle aujourd'hui de parfums de synthèse. Je me les crée moi-même dans ma tête ou dans mon univers comme ça. Je m'invente mes jasmins, mais je m'invente mes bosquets de roses, etc. Et en fait, quand j'écris ça, je les sens vraiment.
C'est quoi ça? Cette odeur, oui, qui soudain gifle heureuse mes narines. Ah. C'est la mer que je vois en bas du ciel, entre le café du Chiheb et le kiosque à journaux. La mer, bien sûr.
Mal tourné, hein, la partie de pêche la dernière fois.
Ah, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui lui a pris? Mais qu'est-ce qui lui a pris? À cette barrique de bois, elle aime de faire ça, Kader. Deux dents cassées, le pauvre. Lui a donné un coup de poing. Boalem Akader.
Oui, crochet du gauche lifté.
Ça a commencé par... Comment on écrit hippopotame avec deux P? Après lui ou après le haut?
Et à cause de ça, se sont viandés, déballés les vieux sacs.
Ta sœur, c'est une pute, je l'ai baisé.
Salaud, je vais te niquer ta mère, tu vas voir.
Le rouge.
Le soleil.
Le coup de poing.
Le sang.
Les hommes. Au fait, comment ça s'écrit, hippopotame?
Comment vous est venue cette idée, ce principe des oranges?
Suite à une série de massacres épouvantables, et j'étais partagé entre l'indignation immédiate ou entre la prise de position radicale, et etc. Ou alors la distance. J'étais partagé entre ces deux points de vue. Et puis je me suis dit que si je prenais le premier point de vue, je risquais d'être prisonnier du pathos moi-même et de ce fait de prendre en otage le lecteur. Et finalement, de ne pas faire avancer l'affaire. J'avais peur qu'on s'arrête qu'à l'hémoglobine, en fait. Par contre, la deuxième solution consistait, en fait, à prendre assez de recul et donc à trouver un dispositif assez frais, assez original, pour pouvoir, en fait, faire rentrer toute l'histoire d'Algérie à l'intérieur, sans justement tomber dans le pathos et dans le radicalisme immédiat. De là, donc, j'ai trouvé l'idée du petit conte, de l'histoire d'amour entre un personnage et une orange, ou de l'histoire d'Algérie racontée par une orange, en fait. Et il y a tout un capital comme ça de générosité ou de saveur qui se met en place tout de suite et qui permet par la suite de faire rentrer en fait tous les courants que l'histoire a dû emprunter pour en arriver là. Je voulais montrer en fait que ce qui se passe aujourd'hui ne vient pas du ciel, qui est bien antérieur au FIS et qui est bien antérieur au FLN, etc. Je pose comme date indicative, et non pas impérative, le 5 juillet 1830, mais on peut aller beaucoup plus avant dans l'histoire. Mais pour les biais de l'analyse, je me suis dit, voilà, on va prendre un grand pan que tout le monde connaît, sur lequel il y a pratiquement pas d'équivoque, et on va essayer de naviguer là-dedans, mais beaucoup moins par le biais des histoires respectives reçues de part et d'autre de la Méditerranée, mais par le biais du quotidien, par le biais des gens à qui on n'a jamais donné la parole, en fait, par le biais aussi des contre-vérités, des contre-cultures, des contre-idéologies aussi, par le biais de la déconnade aussi, de l'humour, toutes ces choses qui ont souvent été considérées comme tabous dans des pays comme ça de type marxiste, tiers-mondiste. On ne rigole pas, ça ne fait pas sérieux, etc.
Ce qui est très intéressant justement quand on lit ce texte, Les Oranges, c'est que la manière dont la langue nous embrasse, nous échauffe, nous fait rire ou nous met en colère, On sort justement de cette image télévisée des victimes d'Algérie. D'un seul coup, les gens, on leur redonne leur dignité d'humain et on peut rire avec eux, pleurer avec eux et partager un peu leur histoire, comprendre un petit peu comment tout ça est arrivé, en tout cas comment les choses se sont passées jusque-là.
C'est absolument le but que je m'étais fixé, qu'il y ait le moins d'interface possible entre le lectorat ou le public et le texte. Je pense que par le biais de l'humour, de la saveur, ça fonctionne.
Dans ce texte, Les Oranges, Aziz Chouaki se fait poète, il chante son amour de l'Algérie et de la tolérance en pleine décennie noire. Il réaffirme toute la sensualité de sa culture orientale à un moment où les islamistes l'ont condamné. Et en même temps, Aziz Chouaki l'affirme, il n'est pas dans le pathos, il n'est pas dans la description de l'horreur. Il ne regarde pas les Algériens comme des victimes, il les regarde comme des êtres humains et il ne les épargne pas. C'est écrit avec humour, c'est écrit avec ironie. Les Algériens en prennent pour leur grade. Aziz Chouaki leur reproche notamment d'avoir souvent jeté le bébé avec l'eau. Explication de l'auteur.
Mais ça a souvent été ce cas de figure. À l'indépendance, on jette le bébé avec l'eau, c'est-à-dire on jette la France avec toutes les bonnes choses que la France avait laissées. Arrive le marxisme, on condamne l'aristocratie. Du coup, on a nationalisé leurs terres, on leur a enlevé leur fric. Et en fait, c'est constitué une bourgeoisie sauvage, qui, eux, n'étaient pas du tout aristocrates. Et qui ont remplacé cette aristocratie, eux sont dénués absolument de toute notion de race précieuse. C'est autant le dire, c'est des ploucs, c'est des arrivistes milliardaires qui se retrouvent aux commandes d'un pays et qui, n'ont rien à distiller, à part la sportivité de la corruption, à part l'arrogance du pouvoir, etc.
Alors, ce qui est intéressant, Aziz Chouaki, c'est que vos idées, en fait, on les retrouve formellement dans votre texte. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que c'est une langue bigarrée, c'est une langue épicée, on l'a écouté tout à l'heure. Mais c'est une langue aussi qui mêle des mots français, des mots arabes, des mots anglais également. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de racisme dans cette langue. Hein. Elle est vraiment bigarrée et elle est fidèle finalement à votre parcours à vous.
Oui, complètement. Moi-même, je suis le produit de plusieurs langues. Gamin, déjà, je parlais couramment trois langues, au moins. J'ai toujours évolué dans un milieu plurilinguistique et il n'y avait absolument aucun problème pour nous.
Alors apparemment, ce n'est absolument pas l'avis du gouvernement, puisque la loi sur l'arabisation du 5 juillet 1998 donc préconise l'arabisation totale. Enfin, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'elle est rédigée en français.
ça fait partie de l'humour algérien.
Cette loi.
On est très fort dans ce genre d'humour. Il y a ça, il y a aussi le fait que tous les enfants des gouvernants sont inscrits dans des écoles françaises ou sont en France, à Genève, aux États-Unis. Il y a aussi le fait que la majorité des gouvernants, 90%, je suis sûr de ne pas me tromper, ne maîtrisent pas du tout cet arabe, à part une vingtaine de phrases de circonstances comme ça. Ça fait toujours partie de l'humour. Il y a aussi autre chose, c'est que tous ces gens-là parlent en français, entre eux, en off, je le dis bien. Et donc, il y a quelque chose de surréaliste, parce qu'on s'est retransmis de régime en régime depuis l'indépendance, on s'est retransmis le complexe de culpabilité par rapport à la France. C'est un énorme complexe qui n'a pas été traité. Il ne peut se traiter malheureusement que par la culture, mais malheureusement, ils ont fermé la culture. Et donc, ils se retrouvent à l'état zéro du symptôme, c'est-à-dire il faut éradiquer. Mais on ne peut pas éradiquer 130 ans comme ça. Il se trouve que ça fait des ravages, il se trouve que on est la risée même des pays arabes.
La voix d'Aziz Chouaki dans La Marche du Monde, une archive précieuse de La Marche du Monde des années 2000. J'avais 30 balais, j'en ai 50. Et quand j'écoute Aziz Chouaki, ici à la Charité-sur-Loire, où vous, Reda Seddiki, vous proposez ce spectacle « Deux mètres de liberté », je me demande si vous ne pourriez pas reprendre les propos de Chouaki en interview avec moi en 2000 pour en faire un spectacle. Parce que je trouve que ça résonne incroyablement avec vos propositions de réflexion. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que dit Aziz Chouaki? Qu'est-ce qui résonne avec votre propre travail?
Déjà, l'histoire de la langue. L'histoire de la langue qui est une chose, comme je dis souvent, on parle une langue... qui est un mélange de berbère, de français, d'arabe, de turc, d'italien et d'espagnol, ce qui est normal, on a été colonisé par tout le monde, on est issu d'une partouze méditerranéenne, donc tout le monde est passé par là, a tiré un coup et a laissé quelques mots, et ça nous a fait beau, ça a fait une langue, et ce qui fait que, enfin, il y a tellement d'histoires, et on sait même pas quelle est la langue qu'on parle. Une fois j'étais avec mon père en Italie, il y a un monsieur du Moyen-Orient qui vient vers nous, il nous dit « Vous parlez en arabe ?» Et on lui dit « Oui ». Il nous dit « Je cherche un garage ». Et mon père, il lui répond avec ces mots. Il lui dit, écoutez, c'est très simple. Vous allez aller tout droit, vous prenez la première à gauche, vous allez trouver un garage. Et le monsieur lui dit, j'ai dit en arabe. Mon père, il regarde, il dit, tu fous de ma gueule, c'est pas de l'arabe, ça? Et du coup, on se cherche, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on parle? Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'en parle souvent, là, encore quand j'étais à Alger, sur scène, j'ai parlé un peu d'un projet de l'Académie de la langue algérienne. Je me suis dit, peut-être, ça serait l'occasion d'enfermer des linguistes pendant 3 ans et leur dire, vous vous démerdez, vous nous sortez une langue, parce que c'est vrai que c'est plus possible. Les politiciens ne parlent pas la langue du peuple, parce qu'elle n'existe pas. Moi, quand je monte sur scène, je sais que si je parle arabe littéraire, je ne vais pas toucher tout le monde. Si je parle le dialecte, je parle le dialecte de ma ville, Tlemcen, je ne vais pas toucher tout le monde. Si je parle en français, alors là, c'est autre chose. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'on n'a pas d'outils de transmission. Avec les jeunes de mon âge, on n'a pas la possibilité d'échanger, on n'a pas la possibilité de débattre. Et peut-être c'est pour ça qu'on est toujours dans le « nous », parce que c'est un peu une manière de se cacher, parce qu'on n'a pas les armes pour en parler. Et on n'arrive même pas à dire « je t'aime ». On drague, on est romantique en français.
Et on manifeste en quelle langue à Alger aujourd'hui, alors ?
Là, clairement, on manifeste en pur algérien parce que.
Alors, ça donne quoi? Faites-nous ça donne,
ça. Saat le fujer ma janino, ranin consomme gher bchouia, j'koun seba ou j'koun l'oum, mellina l'maïcha hadia. En fait, ça fait ça. Au lever du jour, je ne dors plus. Je consomme petit à petit, à qui la faute et à qui j'en veux. J'en peux plus de toute cette vie.
Ok.
Et Aziz était très très fan hein, des slogans de cette Algérie debout là depuis le 22 février. Il suivait ça en boucle sur les réseaux sociaux. Il mettait de côté des vidéos qu'on regardait. Tiens, regarde, écoute ça. La créativité de la rue algérienne, il a toujours été très client et très fier de cette Algérie qui est sortie de souterrainement, on ne sait pas d'où, parce qu'on se disait que depuis les années 90, elle était terrifiée, elle sortirait plus jamais son nez du bois. Il était extrêmement fier, en tout cas du premier round qui s'est joué jusqu'à maintenant.
Ah oui, il doit suivre.
Yasmine Chouaki, lors de l'hommage rendu ce matin à votre mari Aziz, ici à la Charité-sur-Loire au festival aux quatre coins du Mou, vous disiez qu'avec Laurent Vaché ici présent et avec Ovnatan Avedikian qui est venu porter le texte Europa écrit par Aziz Chouaki sur les migrants qui traversent la Méditerranée, c'était au fond un peu la première et la dernière œuvre d'Aziz qui était incarnée. Et nous allons maintenant justement terminer cette émission sur cette ouverture qui est Europa. De quoi s'agit-il donc?
Là, les linguistes, ils ont du boulot aussi. les critiques littéraires, je ne vous raconte même pas. Il y a une genèse en plus. C'est-à-dire que cette pièce a d'abord été jouée, mise en scène par Ovnatan Avedikian et 8 comédiens. Il y a 8 personnages. Il y a un ingénieur, il y a une femme peintre, enfin je spoil la fin, il y a un handicapé, voilà, c'est des haragas, c'est
alors, haraga, il faut
les brûleurs, ce sont les brûleurs de frontières, ceux qui même se brûlent les empreintes des mains, voilà, pour arriver jusqu'à Lampedusa. Donc ça c'est un pitch comme ça, très très réaliste. Ovnatan Avedikian a donné la parole, a fait incarner ses personnages par 8 comédiens dans un premier temps, et finalement aujourd'hui il incarne à lui tout seul ces 8 personnages. C'est un texte choral maintenant, et c'est juste parce qu'en fait le vrai personnage c'est l'écriture, c'est le langage.
Mais c'est le langage qui raconte un désespoir déjà européen, qui raconte cette traversée, ce désir d'Europe à travers cette multiplicité de personnages. Et c'est là où, dans La Marche du Monde, cela nous intéresse. C'est-à-dire que c'est une vision de l'histoire qui n'est pas univoque. C'est une vision de l'individu pris dans le flot de l'histoire, et en l'occurrence dans le flot de la Méditerranée, qui est chorale. Hein. Parce que pour Aziz Chouaki, on ne peut pas donner une version des faits.
Oui, je pense pas qu'il se soit posé en sociologue ou quoi de la question de la migration. C'est pas du tout son propos. En fait, le vrai projet d'Aziz Chouaki, c'était d'écrire au nom d'un président qui serait une sorte de loup de Wall Street, un super Trump mondial, dont le discours était alterné dans l'écriture d'Aziz par les migrants. C'est-à-dire qu'on a effectivement le président du monde qui s'adresse avec tout le cynisme dont il est capable, le cynisme financier, social, politique, pendant que, tableau suivant, on est dans les profondeurs de l'océan avec le vrai drame humain qui se joue. Le problème, c'est que on a difficulté à entendre tous ces discours et ces multiplicités de discours, ces multiplicités d'identités, ces multiples regards sur l'histoire. Et finalement, celui qui était commanditaire de ce texte a dit « Ben non, je vais pouvoir assumer qu'une partie de cette histoire-là, je ne prends que la partie des migrants. » Aziz avait une véritable liberté d'auteur, mais qui n'était pas... Elle lui a été autorisée en France. Je pense qu'il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a fait si on était resté en Algérie, c'est vrai. Mais il n'a pas fait la carrière qu'il méritait de faire, même en France.
Alors, avant d'entendre des extraits de Repas que nous avons enregistrés ici même à la Charité sur Loire, que Richard Rifono, qui réalise cette émission, a enregistré avec Ovnatan Ovidikian, j'aimerais tout de suite me tourner vers Reda Seddiki, parce que figurez-vous que celui-là qui fait 2 mètres et qui fait son spectacle 2 mètres de liberté, eh bien, il incarne un super président du monde.
Je me dis peut-être qu'on a passé des soirées avec Aziz et je n'étais pas au courant, je sais pas.
Mais Aziz avait éternellement 28 ans. Hein. Il n'avait pas d'âge, Aziz.
On veut en entendre plus.
En fait, j'imagine que le monde dans lequel on vit est tellement absurde que peut-être bientôt on va nous annoncer que la vie c'est une caméra cachée. Et j'imagine le patron du monde de nous faire une conférence de presse en direct devant 7 milliards d'êtres humains pour nous annoncer la nouvelle. Et justement, il donne des explications sur tout, en fait, sur tout ce qui se passe, sur toute la mise en scène. Et d'ailleurs, il parle à un moment des migrants parce que...
Il dit quoi?
Il dit, c'était le clin d'œil, ils ont envoyé des Algériens qui ont été jetés dans la Seine, mais ils sont toujours là. Ça, c'est la poussée d'Archimède.
En référence à octobre 61,
exactement.
Le drame.
Et il dit que la Terre, notre planète respecte des équations physiques et mathématiques qui font que si on expulse des gens, ils reviennent. Donc on s'en fout d'SOS Racisme, il suffirait de faire une licence de physique.
Aziz adorerait.
Alors, parole au mot d'Aziz Chouaki, par le haut-parleur humaniste et grande gueule, Ovnatan Ovidikian.
Ouais, c'est ça. Exactement. Taxieur, mon dernier taf. Transporter de la viande de con. Te raconte leur vie, genre. Et je lui dis ta-ta-ta, elle me dit ti-ti-ti, ferme ta gueule, connard. Ouais, mais moi, cool, je transportais. Et un jour, un militaire, il se pointe. Il me dit, conduis-moi à Truc. Je le conduis à Truc. Une fois arrivé, je tends la main, pour la fraîche. Il me dit quoi? Je lui dis la course. Il relève sa visière, me regarde dans les yeux et calme, il me balance. Est-ce que tu veux sincèrement me sucer? Moi, putain, je reçois l'uppercute. Je sais pas comment le prendre. Et je me casse. Et tout se casse dans ma tête. Le pays. Tout. Je vois les boulons. Le drapeau. Les vis. Tout. Les courroies partir en couille. Les souvenirs, le front de mer, les potes, c'est ça le pays, j'ai vu. Tout qui brinque-balle, rien qui tient, tout barre en java, juste la force des couilles, ouais, l'armée. C'est là que le cœur qui caille, donc haraga, sinon égorgeur de con, j'aurais fini. Et pourtant, ils étaient balèzes avant, les Arabes. La boussole, l'algèbre, l'astronomie, c'est con. Ils se guidaient aux étoiles. T'imagines les hypnèmes, machin, tout ça, la poésie aussi, avant, bien sûr. Parce que maintenant, ça va encore m'énerver. Et dès qu'on arrive, je me teins en blond. Terminos, Je change de nom aussi. Jack. Ou alors George, tiens. Et je change de chaise roulante. Et j'étiette, moi, cette merde. J'en prends un écran tactile. Et j'ai vu sur un canard. Ouais. Le fric t'occupe. Les associations, les filières. Hop, glissez poisson. Et salut, moi, c'est George. Là, on voit plus du tout la côte. Ça y est, on est en pleine mer. C'est la nuit totale.
Tous les personnages d'Esperanza, vous les interprétez, Jonathan Avedikian, on vient de vous entendre. J'aimerais savoir quelle est un peu la mythologie de cet Europa pour vos personnages.
Ben, il y a plusieurs Europa parce qu'en fait, Aziz est un homme multiple. Donc, il parle évidemment de l'Eldorado, dont on entend parler en permanence, de ces jeunes qui s'embarquent sur des pneumatiques pour essayer d'atteindre des côtes de l'Europe. Mais il se parle aussi de l'Europe dans la mythologie. Et puis, il parle de son Europe. C'est quelqu'un qui parle vraiment de la Méditerranée. C'est-à-dire, c'est vraiment la base d'une Europe multiculturelle, totale. Donc, tout ça est mélangé entre des gens qui partent de chez eux pour atteindre un monde où, et en même temps en amener le leur. Il y a une dimension dans l'écriture d'Aziz Chouaki, c'est que c'est un homme qui déjoue la politique. Et ça, c'est très rare. Donc c'est jamais larmoyant, jamais culpabilisé, ou alors on en rit, mais alors on en rit de la culpabilité. C'est quelqu'un qui s'exprime tellement bien que c'est très difficile d'expliquer ce qu'il explique. Voilà.
Donc écoutons sa langue, écoutons ce deuxième extrait que vous nous offrez pour la marche du monde ici, l'Algérie racontée par Aziz Chouaki.
Depuis Platon, serpillère de plus en plus. Alors oui, moi je brame. Qu'est-ce que ? Ah oui, je dis bien qu'est-ce que ? Décatise à l'encan les questions. Ça se savonne vestibulaire. Pourquoi ? Parce que tout être humain doit choisir entre l'absurde et le mystère. Moi j'ai choisi boule de gomme. Comme ça, direct. La politique, pareil. Tu prends un petit pois, tu le coupes en deux et t'as la révolution, la tête du roi, les sans culottes. Un plex, tout ça. Un plex et jaspé tout le long. T'as Staline, Mao, le Jack Dollar. Tout le monde y va vouloir sortir son cul du petit pois. Napoléon, les mille et une nuits, les tapis volants. Tout le monde. Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Mickey Mouse aussi, il peut. Parfaitement, mon ami. Il peut te dire. Eh bien, que la fantaisie sait, parce que la fantaisie sait. Que le dernier ferme la porte. Gringo de Madre de Dios. Brûleur, c'est sacerdoce. Une croix qu'on fait soi-même. Sa peau, ses ongles, ses dents. Saint Kader, Saint Rachid, Saint Nadir. Que vos noms soient sanctifiés. Après, c'est vaya con Dios. La croix, la passion, fêtue de paille, vaille que vague le brûleur, tatouage du vent, mémoire de mer, des algues dans les cheveux, entre morts et vivants. Pourquoi? Pourquoi il fait ça le brûleur? Parce que... Non, je peux pas répondre. Non, parce qu'après, tout de suite, je sais, comme d'hab, je vais m'énerver grave et... Non, je répondrai pas. Inutile d'insister.
Grand merci à Vnatan Avedikian et à Vasken Solakian pour cette générosité, ces deux extraits de repas enregistrés spécialement pour la Marche du Monde, ici au Festival de la Charité sur Loire, qui fait entendre les mots, les langues, les ailleurs, autrement, mais aussi rend hommage à Aziz Chouaki. Et ce qui nous intéresse, chers auditeurs aussi, dans la Marche du Monde, au-delà de la richesse de cette langue métissée d'Aziz Chouaki, c'est aussi sa façon à lui de nous interroger sur notre histoire commune entre la France et l'Algérie. Je vous propose chacun de peut-être me dire un mot sur cette question-là, après tous ces mots d'Aziz que nous venons d'entendre et de partager. Reda Sediki.
Ce qui m'a marqué, je dirais, le plus, c'est quand on dit qui déconstruit le politique, parce que je me retrouve complètement dans ces mots, parce que Aziz, comme moi, a subi le roman national algérien. Puis il est venu en France, il a subi le roman national français. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sent qu'à travers son œuvre, en fait, il déjoue là le roman national des politiques. Et il est juste en train d'écrire le roman national de l'humanité, tout simplement. Et c'est ça que je ressens.
Cette dimension universelle qui fait qu'il nous parle aussi de notre histoire mondiale. Laurent Vachy.
Moi, je dirais que c'est surtout... Aziz, il m'a appris une langue, quoi. Il m'a appris à penser autrement que ce que je pensais. Il m'a ouvert l'esprit, il m'a ouvert énormément de choses, quoi. J'ai découvert cette histoire entre la France et l'Algérie, concrètement, ce que ça représentait. Moi, j'ai grandi dans une cité, par exemple, où il y avait plein de pieds noirs. Je savais absolument pas ce que c'était. Et puis non, je pensais que c'était des Indiens. Oui, je pensais que c'était les nez percés, les Apaches, les pieds noirs, voilà, quoi. Et après j'ai su, avant qu'Aziz me le dise, évidemment, je peux pas rester avec une casquette
bien
comme
sûr,
ça.
Bien sûr, mais vos oreilles d'enfant.
mais avec mes
pas.
Oreilles d'enfant dans les années 60, j'étais un peu étonné quand je voyais les commerçants, parce que c'était des pieds noirs qui avaient repris les commerces dans la cité à Bagneux. J'étais un peu surpris. Je les imaginais mal avec des plumes et avec des pagnes, mais je me disais, oui, ça doit être ça.
Vous ne saviez pas que les pieds noirs
étaient... Non, je savais pas tout ça, j'étais complètement...
Étaient ces Français qui étaient installés en Algérie pendant la colonisation et qui étaient partis très rapidement.
J'aurais pu me poser des questions parce que j'avais des copains qui étaient pieds noirs et des copains qui étaient algériens, parce que dans la cité, tout était très mixé, quoi. Et on était toujours en bande, on circulait toujours en bande, hein, un peu comme... Voilà. Mais à un moment donné, il y avait des frontières, c'est-à-dire que Ahmed, il rentrait pas chez Pitoun et Pitoun, il rentrait pas chez Ahmed. Mais moi, je rentrais partout.
Yasmine Chouaki, parlons un peu de cette mémoire partagée aussi que vous avez, vous, avec l'Algérie.
Oui, je dirais, pour juste rebondir sur cette question, qu'est-ce que Aziz nous dit de l'histoire? Déjà, il n'était pas, je pense, dans une attitude de repentance. Ce n'était pas du tout son attitude. En revanche, je pense que, au-delà de l'écriture, il avait en tête une sorte d'inventaire, de double inventaire, et côté français et côté algérien. Il avait une très très grande colère, une très grande lucidité sur ce qui n'avait pas été fait, mal fait, trafiqué, falsifié, côté récit français, côté récit algérien. Mais sa grande force, c'est que je pense que c'était un véritable humaniste. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans ces débats-là du tout, du tout. De la même manière que moi, il m'a accueilli dans cette Algérie, je débarque donc fin des années 80. Je suis l'occidentale, pas que occidentale. Je parle pas l'arabe, mon père m'a pas appris le kabyle, etc.
Et votre père algérien.
Mon père algérien, qui a tenté de se fondre dans une espèce de francité très blanche. Il a épousé la blonde aux yeux bleus, il a renoncé à sa nationalité algérienne, à son prénom algérien, enfin, etc. Et moi, je fais le trajet absolument inverse. C'est-à-dire que j'arrive avec mon passeport français, j'obtiens mon passeport algérien, mon deuxième prénom algérien, Yasmine, ça devient mon prénom usuel à partir de l'âge de 16-17 ans, alors que mon père musulman m'a fait quand même baptiser Christine dans une église. Donc il a été extrêmement loin dans la blanchitude, quoi, dans le renoncement à tout ça. Je débarque avec ce pédigré, on va dire, donc je suis dans une espèce de quête, de voilà, mais très idéalisée, très fantasmée, j'écoute encore Djourdjoura et Idir, c'est vous dire, donc c'est très joli d'un point de vue, mais c'est très occidental, ça n'a rien à voir avec la réalité algérienne. Je débarque là-dedans et j'ai pas le mode d'emploi. Et c'est Aziz qui va être mon guide. Mais Aziz est un guide iconoclaste. C'est un, à la fois, c'est un très grand humaniste, etc. Mais c'est un très grand voyou aussi. Mais un voyou très bien élevé.
Beau gosse.
Et beau gosse, il avait une tête d'ange. Hein, quand je le rencontre, c'est absolument... On n'aurait jamais imaginé...
Comment on dit, Ariano de famille.
Ah voilà, exactement. Et donc, on n'imaginait pas son, voilà, le fait qu'il vive la nuit, qu'il boive ce qu'il boive, qu'il fume ce qu'il fume, qu'il écoute ce qu'il écoute, etc. Et qu'il pense le monde.
Justement, Yasmine Chouaki, offrez-nous la bande-son pour terminer cette émission de vos années d'amoureuse. Vous allez vous marier avec Aziz en Algérie, justement. Cette fin des années 80.
Alors, la bande-son, c'est drôle parce que, en même temps que l'Algérie, donc, est en train, de s'effaroucher comme ça, de se lever en 88, les émeutes et tout. Aziz est dans un temps d'ébullition créative intense. C'est-à-dire qu'il finit d'écrire Baya, son premier roman, et les cousines, parce qu'il est né dans un, il y a un gynécée, hein, autour d'Aziz, il y a plein de femmes. Donc, tape à la machine ce premier roman, Baya, il y a qu'un Macintosh pour toute la famille. Hein.
Une espèce de roman hommage aussi à la figure de la mère institutrice.
Baya, c'est absolument l'hommage à cette grande famille féminine. Enfin, c'est le matriarcat absolument qui a élevé Aziz. Et en même temps, il rentre en studio pour une maquette avec, il a écrit un album, mais qui est resté inédit. Il est juste dans son iPhone. On l'a avec nous. 8 morceaux de musique et qui sont à la croisée de tout ce qu'il écoutait musicalement, c'est-à-dire entre le Shaabi, d'Ahmen el-Harachi, Yaraya. Nous, on peut pas l'écouter version Rachita. C'est la version libanaise dans le meilleur des cas. Mais non, mais on est d'accord, Reda. Voilà, c'est très occidental. Il est entre ça, il est entre Miles Davis qu'il a intégré d'ailleurs à une pièce de théâtre, une virée. Il est dans le jazz fusion, il est dans le rock. Jimi Hendrix a été une figure pour lui extrêmement inspirante. Il est dans James Brown, d'ailleurs, James Brown pour lui est absolument algérien. Il y a que des James Brown dans son quartier, on est bien d'accord. La coiffure et tout. Il y a que à ce moment-là qu'ils essayaient pas de se défriser les cheveux, les laisser crépus pour faire James Brown. Voilà, donc c'est... On vivait dans ce melting pot comme ça et dans cette espèce de tout monde qu'a chanté Édouard Glissant. On avait l'impression qu'Alger allait être la capitale de ce tout monde.
Merci. Merci. Reda Sediki, merci. Laurent Vacher, merci. Richard Rifuno. Oui, oui.
Mais voilà. Non, mais c'est ça. So good. I got you. I feel nice. Sugar response. I feel nice. Sugar response. L'Algérie racontée par Aziz Chouaki, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Richard Rifuno, enregistré au Festival de la Charité sur Loire, aux quatre coins du mot, dont vous retrouvez l'intégralité de la programmation sur notre page rfi.fr. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes les photographies que nous avons réalisées au Festival. Exprimez-vous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.